franceinter.fr.
Marcel !
Le seul véritable voyage, ce ne serait pas d'aller vers d'autres paysages, mais d'avoir d'autres yeux.
Je cessais au moment où j'avais reconnu inconsciemment le goût de la petite Madeleine.
Un été avec Proust. Une émission de Laura El Maki.
Le seul véritable voyage, ce ne serait pas d'aller vers d'autres paysages, mais d'avoir d'autres yeux. Nous sommes au cinquième tome d'À la recherche du temps perdu, dans La prisonnière. Le narrateur prononce cette phrase alors qu'il est en train d'écouter le septuor de Vinteuil chez les Verdurin. C'est la première fois qu'il entend cette musique. Et à la manière de la sonate pour Swann, elle le transporte en pays inconnu et lui fait ressentir intensément la réalité. Le musicien Vinteuil parvient ainsi à le faire voyager, à lui faire percevoir l'univers autrement. Il lui donne d'autres yeux. Il s'agit là du sens figuré de la vision. Mais les yeux servent évidemment et avant tout à voir, à regarder, à scruter et même à radiographier le réel. Et le narrateur, tout au long du roman, nous allons le voir, se délecte de cette activité. Ce soir donc, pour ce troisième épisode autour de l'imaginaire proustien, toujours en compagnie de Julia Kristeva, c'est du regard dont nous allons parler, de son pouvoir, de ses enjeux et de ses limites.
Je l'ai d'abord connu en 1900 chez Madame Strauss, où il se tenait un peu comme un petit chien familier à côté d'elle, assis sur un tabouret à ses pieds. Évidemment, on ne pouvait pas ne pas être frappé par cette singulière pâleur, par ce cheveu extrêmement sombre et surtout ces yeux absolument extraordinaires que je oserais comparer à un œil velu de mouche, c'est-à-dire un œil qui voyait à mille facettes et qui voyait tout à la fois. Je ne trouve pas qu'il avait donné le sentiment d'une très grande présence. On a le sentiment que quand on lui parlait, en effet, il écoutait, semblait peut-être écouter, mais évidemment entendait et voyait bien au-delà de ce qu'on lui disait. On ne pouvait pas ne pas en être frappé dès ce moment où il n'était pas encore célèbre, mais où sa merveilleuse intelligence était déjà connue et remarquée de tous ses amis.
Bonsoir Julia Kristeva.
Bonsoir.
Les yeux extraordinaires de Marcel Proust, c'était Madame Simone, quelqu'un qui l'a bien connu, qui en parlait. Et elle disait qu'il avait un œil velu de mouche. C'est une comparaison intéressante hein, parce qu'on a vraiment cette idée d'une attention excessive aux choses qui l'entourent, de cet œil qui voit tout.
Écoutez, moi je pense surtout au portrait que dresse de Proust Colette et qui le voyait comme un prophète. Ce regard intense, il ne voit pas des images, il voit un tourbillon de sensations, il voit la pulsion du temps. Et il traduit en visible une complexité sensorielle. Je pense qu'il ne faut pas réduire Proust à ce qui est de l'ordre du visible, mais à partir de lui, insérer dans le visible l'intensité de toutes les sensations. C'est pour cela qu'il aime la peinture et pas le cinématographe, parce qu'il a le sentiment que chez les impressionnistes ou d'autres peintres, ce qu'il vit, lui, face au visible, est nourri de la complexité de l'expérience, des douleurs et des joies.
Marcel Proust, c'est plutôt le narrateur, il regarde, il radiographie, hein, c'est son terme, il s'émerveille aussi parfois, mais surtout, il espionne. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit à deux ou trois reprises dans le livre. Il n'est pas que voyant, il est aussi voyeur. Alors comment on peut comprendre, ou doit-on comprendre cette fascination du narrateur pour ce qui est interdit, pour ce qui est dissimulé? Il est tout le temps dans la transgression.
Oui. Alors, il est dans la transgression, pas pour la transgression, parce que ce qui l'intéresse, c'est de capter la douleur. Avant de parler de cette scène de voyeurisme, je voudrais insister sur son intérêt pour l'expérience de la douleur. Parce que c'est sa douleur qu'il observe à travers le trou dans le mur, où il voit le baron de Charlus se faire flageller. Et c'est pour traverser la douleur et en faire une divinité douloureuse qui non seulement nous rend malheureux, mais nous exalte aussi, qu'il fait ces descriptions.
Alors sa douleur, celle de Marcel Proust. Hein.
Celle de Marcel Proust et celle de Charlus en même temps. Donc cette fascination par la douleur qui est la sienne, qui est la douleur de l'enfant qui se sépare de la mère, du jeune homme asthmatique, du juif qui est écarté des salons mais dans lesquels il va quand même trouver sa place, de l'écrivain qui cherche ses mots. Toutes ces douleurs qui lui semblent être comme la voie obligée pour la création, de manière non pas à se complaire dans la douleur, mais de trouver sa formulation. Et c'est seulement là que ça devient la divinité et remplit de joie notre existence.
Alors cette douleur dont il est souvent spectateur, notamment dans un autre passage du Temps retrouvé, où il assiste à une scène de flagellation. Alors en fait, il s'arrête dans un hôtel pour se reposer. C'est une maison de passe tenue par Jupien. On lui donne une chambre et en se dirigeant vers cette chambre, il entend des plaintes, écrit. Voici l'extrait en question lu par Denis Podalydès.
Bientôt, on me fit monter dans la chambre 43. Mais l'atmosphère était si désagréable et ma curiosité si grande que, mon cassis bu, je redescendis l'escalier, puis, pris d'une autre idée, le remontai et, dépassant l'étage de la chambre 43, allai jusqu'en haut. Tout d'un coup, d'une chambre qui était isolée au bout d'un couloir, me semblèrent venir des plaintes étouffées. Je marchai vivement dans ces directions et appliquai mon oreille à la porte. « Je vous en supplie, grâce, grâce, pitié, détachez-moi, ne me frappez pas si fort, » disait une voix. « Je vous baise les pieds, je m'humilie, je ne recommencerai pas, ayez pitié. »« Non, crapule, » répondit une autre voix, « et puisque tu gueules et que tu te traînes à genoux, on va t'attacher sur le lit, pas de pitié. » Et j'entendis le bruit du claquement d'un martinet, probablement aiguisé de clous, car il fut suivi de cris de douleur. Alors je m'aperçus qu'il y avait dans cette chambre un œil de bœuf latéral dont on avait oublié de tirer le rideau. Cheminant à pas de loup dans l'ombre, je me glissai jusqu'à cet œil de bœuf, et là, enchaîné sur un lit comme Prométhée sur son rocher, recevant les coups d'un martinet en effet planté de clous que lui infligeait Maurice, je vis, déjà tout en sang, et couvert d'ecchymoses qui prouvaient que le supplice n'avait pas lieu pour la première fois, je vis devant moi Monsieur de Charlus.
Julia Kristeva, cet épisode, c'est quelque chose que Proust a vécu lui-même et il le raconte à Céleste Albaret.
Oui, nous avons ici un document extraordinaire qui est peut-être unique dans la littérature où une femme de service qui se fait en fait analyste, psychologue.
Céleste Albaret, donc.
Céleste Albaret. Gouvernante. Voilà. Qui a écrit un livre qui s'appelle Monsieur Proust. Et on va peut-être se rappeler la
oui,
phrase de
le témoignage de Céleste, Céleste. Oui, qui en parle juste après.
Voilà comment elle raconte ce qu'il lui a raconté. « Ma chère Céleste, ce que j'ai vu ce soir est inimaginable. J'arrive de chez le Cusia. Comme vous le savez, il m'avait signalé qu'il y avait un homme qui se rend chez lui pour se faire flageller. J'ai assisté à toute la scène, d'une autre pièce, par une petite fenêtre dans le mur. C'est incroyable, je vous dis. J'en doutais. » Je voulais un contrôle. Je l'ai. Donc, il n'est pas du tout écœuré. Donc, il tient son truc. Il s'agit d'un gros industriel qui fait spécialement le voyage du nord de la France pour cela. Figurez-vous qu'il est là, dans une chambre, attaché à un mur par des chaînes cadenassées et qu'une espèce de sale individu, ramassé on ne sait où et qu'on paye pour cela, lui tape dessus à coups de fouet jusqu'à ce que le sang gicle de partout. Et c'est alors que le malheureux a la jouissance de nos plaisirs. Et de tous ses plaisirs. Et donc, à partir de là, ce qui est frappant, c'est que chaque fois qu'il revenait, nous dit-elle, il m'en parlait sur le même ton que s'il était rentré d'une soirée chez le comte de Beaumont ou chez la comtesse Griffull. C'était le tableau de ce qu'il avait vu qui l'intéressait. Rien d'autre.
Oui, c'est quelque chose pour lui d'assez...
Voilà, et c'est à partir de là qu'il entre dans la fiction. Toujours est-il que nous avons parlé de l'horrible scène de la flagellation pendant des heures cette nuit-là. Moi, écrasé, comme je l'ai dit, et lui, répétant, comme pour ne rien oublier, à sa manière, pendant certainement déjà tout haut à sa réaction à laquelle il pensait. Donc, elle est écrasée, c'est elle qui est la personne fouettée, et c'est lui qui fouette la pauvre analyste qui l'écoute. Il l'inverse, la fouettée sera elle, celle qui l'écoute, nous les lecteurs, et c'est lui qui va nous infliger, avec son stylet, un style qui nous va nous faire sentir la douleur.
Un été avec Proust, Julia Kristeva, Laura El Maki.
Alors c'est assez fascinant, vous en parlez beaucoup dans votre livre, comment Proust aime bien être spectateur de scènes violentes, de scènes parfois indécentes, choquantes. Vous dites que c'est un délicat monstrueux ou un délicat horrible, je ne sais plus exactement quelle est votre expression, mais il y a vraiment ce double rapport à la vie. Et à la réalité.
Notre société commence à décriminaliser la perversion et à comprendre comment elle fait partie de l'intime de l'intime. Le sadomasochisme, l'homosexualité, etc. Il l'a fait de manière extrêmement délicate, sans être militant, sans s'affirmer comme partisan d'aucune cause. Il était absolument dégoûté de tout communautarisme, mais en étant toujours à la marge pour pouvoir dire la vérité de ce qui est de deux côtés de la marge. Et pour cela, il avait, à partir de son expérience, le sentiment qu'il est important pour un écrivain de dire le vrai de la souffrance, qu'on la subisse ou qu'on se l'inflige soi-même. Le supplice serait la voie obligée de l'incarnation, mais aussi la voie obligée de l'écriture. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille écrire la plainte, qu'il faille s'en plaindre ou qu'il faille sacraliser les larmes. Au contraire, c'est une manière de peupler le monde de plaisir, d'avoir vaincu cette souffrance, d'avoir pu s'en débarrasser. Mais en la connaissant, on est plus riche, on est plus complexe, on est dans le vrai.
Alors pourquoi Charlus, justement, pourquoi le baron de Charlus est mis en scène dans cet extrait? Pourquoi lui et pas un autre?
Le baron de Charlus est une grande figure. J'ai consacré beaucoup de pages dans mon livre à son portrait parce qu'il présente cette addiction à la souffrance. Il est aussi un noble qui représente une certaine France qui s'en va. Mais en même temps, il est quelqu'un que Proust sent au fond de lui-même comme faisant partie de lui-même et dont il se détache. Pourquoi? Parce que Charlus croit trop au désir. Il ne pense qu'à ça. Et l'écrivain y pense, mais pas qu'à ça. Il pense, comme le dit très bien Céleste, à s'en détacher, pas pour l'oublier, peut-être pour y revenir, mais à s'en détacher pour l'écrire. Charlus est un des célibataires de l'art. Il ne sait pas écrire. Et à la fin de cela, je vais peut-être vous rappeler quelques phrases de Proust concernant le malheur de Charlus. Le malheur de Charlus n'est pas d'être battu, c'est de ne pas être écrivain. Écoutons cela. Quel malheur que monsieur de Charlus ne soit pas romancier ou poète. Non pas pour écrire ce qu'il verrait, mais le point où se trouve un Charlus par rapport au désir qui fait naître l'amour au-delà de ses scandales. Et c'est cette chose-là qui empêche Charlus de s'arrêter et de s'immobiliser et qui empêche de donner une vie ironique extérieure aux choses qu'il reproche à Charlus. Seul l'écrivain peut donner une vue ironique et extérieur à la flagellation, à notre souffrance. Alors, il reste un homme de douleur.
Il y a un point il nous reste très peu de temps, mais il y a un point assez important, c'est que les deux scènes de voyeurisme qui se déroulent dans la recherche, la première, c'est quand le narrateur tombe sur Mademoiselle de Vinteuil qui embrasse une autre fille. La seconde, on vient de l'entendre, Baron de Charlus qui se fait flageller, fouetter dans un bordel. Les deux scènes de voyeurisme mettent en scène des homosexuels.
Proust a une vision, me semble-t-il, très complexe et qu'on a souvent simplifiée de l'homosexualité. D'une part, c'est une race maudite, donc il ne l'assume pas ouvertement et d'ailleurs le narrateur ne se présente pas comme homosexuel. Mais Sodome et Gomorre vont être détruites, ces cités bibliques. Néanmoins, chez Ézéchiel et dans la tradition mystique, le Zohar, qu'il a lu, qui venait d'être traduite par Pouli, il trouve une autre vision de l'homosexualité, qui est la vision de Daniel, selon laquelle ce sont des élus qui disent des vérités. Et donc c'est cette vérité-là qu'il essaye d'assumer. D'où l'ambiguïté du rôle de l'homosexuel. Il est à la fois celui qui est le plus dans le hors sacré, puisqu'il est dans cette souffrance de masochique, entre autres. Mais parce qu'il a cela aussi, il peut dire à toutes les sociétés humaines qu'elles sont sadomasochiques et qu'elles se repaissent d'une violence qu'elles n'osent pas avouer. Donc, l'homosexuel, comme le juif, sont des marginaux, comme l'écrivain, car seulement à la marge d'une société, on peut dire la vérité sociale qui est de tuer.
La marginalité, nous en parlerons vendredi. Merci beaucoup Julia Kristeva et à demain, nous continuerons notre discussion autour de l'imaginaire proustien et nous parlerons de la place du sommeil et du rêve dans la recherche. D'ici là, je vous donne rendez-vous sur le site de l'émission sur franceinter.fr. Vous y trouverez toutes les références des textes cités à l'antenne. Passez une belle soirée sur France Inter, à demain.
Glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, so you think it's really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless. To those with definition for what life is, priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go.
Hey, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes and see destruction and demise. Corruption in the skies from this enterprise. Now I'm sucked into your lies through rustle, not his muscles, but percussion he provides. With me as a guide, y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the end. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head.
Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future. It's coming on, it's coming on, it's coming on. My future.